I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Clément, dont le petit garçon est né très grand prématuré. Ceci dit, avant d'aller plus loin, petit message inhabituel, mais j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Cécile, la compagne de Clément qui fête son anniversaire le jour où ce podcast est diffusé, le 2 décembre 2019. Cécile, qui est une auditrice de ce podcast, a incité Clément depuis de nombreux mois à passer à mon micro, et non seulement il lui a caché qu'il venait me parler, mais en plus son anniversaire tombe cette année, un premier lundi du mois, donc c'est une double surprise pour elle. Un très bon anniversaire à toi Cécile, et merci d'avoir poussé ton gars à être venu me parler, c'était un très chouette moment. Pour en revenir à l'épisode, Clément vous racontera son envie d'enfant, comment s'est passée la grossesse, ce qui a provoqué l'accouchement en avance et surtout comment on fait pour ramener à la maison une toute petite crevette qui devrait normalement, entre guillemets, encore être dans le ventre de sa mère. C'est toute une aventure. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs, c'est tout nouveau, mais j'attends vos commentaires sur cet épisode sur mon site internet www.daron.fr. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Enfin, si vous voulez découvrir mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de succès, je vous mets tous les liens également dans les notes de cet épisode. Normalement, si vous aimez mes entretiens, ça devrait également vous plaire. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Clément.
On est avec Clément. Salut Clément.
Salut.
Ça va ?
Ouais, toi ?
Ça va très bien. Merci de venir Clément.
Oui, bah oui, c'était un peu compliqué.
Non, mais ça va. On finit par arriver à trouver un truc. Parce qu'en gros, t'as eu bébé malade, c'est ça ?
Oui,
il y a 15 jours,
ça,
tu devais venir. Et puis, ouais,
bébé, et puis du coup.
Tout le monde ?
Tout le monde, évidemment.
Ça fait partie des trucs, hein ?
Ouais.
Il n'est pas encore à la crèche, là, c'est ça ?
Si, justement.
Ah oui, c'est le moment où, justement, il chope tous les trucs
c'est
et vous
ça.
Les refile.
Exactement.
Mais tu verras, maintenant, moi, mes filles sont grandes et depuis, je ne suis plus jamais malade.
Oui, bah...
Ça m'a immunisé, en fait, ces 2 ans où vraiment, tu chopes tout ce qui est possible et après, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, dis-toi que tu es en train de mettre une piécette pour l'avenir de ta future santé. merci beaucoup en tout cas Clément d'avoir envoyé un mail. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ?
Alors je m'appelle Clément, j'ai 25 ans, je vis en région parisienne et donc je suis ingénieur. Et si je suis aussi ici, c'est parce que je suis papa depuis 18 mois.
Bravo.
J'ai reconté. Je suis papa depuis 18 mois d'un petit Merlin. Et donc, qui est né prématuré à 27 semaines d'aménorrhée plus 5 jours.
Alors, 27 semaines d'aménorrhée, je suis nul. Moi, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais je pense qu'il y a. En fait, tant que t'as pas de soucis avec la grossesse, tu te soucies pas de combien ça fait 27 semaines. 27 semaines, ça fait. Dis-moi, ça fait
ça
combien ?
Ça fait à peu près. Il est venu avec 3 mois d'avance.
Ok.
C'est à peu près 6 mois.
Donc, est-ce qu'on est limite grand prématuré, c'est ça ?
Si 27 plus 5, c'est très grand prématuré et 28 semaines d'aménorrhée, ça aurait été grand prématuré. Donc, c'est juste la limite.
D'accord. On va reparler de toute cette aventure qui, j'imagine, a dû être une sacrée aventure. Mais avant ça, est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir papa ?
Alors, donc on est ensemble avec ma compagne depuis 6 ans maintenant.
Donc vous êtes connus jeunes alors ?
Ouais, on s'est connus assez jeunes, on s'est même connus 2 fois.
Ok, c'est des choses qui arrivent.
C'est ça. Et donc ça faisait 6 ans qu'on
était... Attends, vous êtes connus 2 fois, tu peux pas juste me dire ça et rien me dire d'autre, mec. T'es venu là pour raconter des histoires, hein, tu
ouais,
vois.
C'est donc... une histoire un peu longue. Non, on a été ensemble une première fois, donc très jeune, on était fin de lycée.
Ok.
On s'est séparés et donc on s'est remis ensemble quelques années après. Donc là, c'est bon, on est resté.
Okay.
J'avais compris, j'ai fait une erreur une fois, pas deux.
C'est toi qui avais décidé de mettre fin à la première fois, c'est ça ?
C'est ça.
T'étais là, mais non, mais je vais vivre ma vie, quoi, d'accord ?
Je veux être libre, puis c'est ça. Puis deux, puis que je t'en prends, en fait, j'étais con. Bon, et donc. Donc voilà, donc on était ensemble depuis un certain temps. On est même parti vivre un an en Angleterre. Donc, à la fin de mes études, histoire de découvrir un peu, de voyager un peu. Et donc ensuite, une fois qu'on est revenu en France, bah, alors c'est, je ne vais pas le gager, c'était surtout ma compagne qui voulait beaucoup être mère. Moi, après, ça me dérangeait. Enfin, c'est une idée qui me séduisait quand même. Et donc, arrivé en France, on s'est dit, c'est la prochaine étape, quoi. Donc, on ne va pas attendre plus longtemps. Donc, qu'on a décidé de faire un enfant.
C'était quoi ton rapport avec les enfants autour de toi avant ça?
Pendant très longtemps, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça. Et c'est je pense que ça a pas mal changé avec l'arrivée de ma nièce, donc ma sœur. J'ai une sœur qui a une petite fille. Et c'était le premier enfant que j'ai vraiment vu grandir à côté de moi. Enfin, que je voyais vraiment évoluer au fur et à mesure. Et ça a quand même beaucoup changé mon rapport. En plus, ouais, c'est une nièce, donc qui aime bien son tonton, qui est très affectueuse, etc. Enfin, ça a un peu quand même changé ma vision de la chose. Puis aussi en grandissant, tout simplement.
Qu'est-ce qui t'a fait évoluer vers en fait, ça m'intéresse pas, vers ok, en fait, peut-être c'est un truc bien, jusqu'à finir par dire ok, let's go, on y va.
Bah, je pense que c'est le temps, tout simplement. C'est ouais. En évoluant, on change, etc. Puis à un moment, enfin, je m'étais jamais dit j'aurais jamais d'enfant, toi. C'était un peu l'évolution logique de la vie. Ouais. Enfin, je dis ça, c'est ridicule, mais c'est un peu comme ça que c'était, quoi. Et non, puis voilà, quand on est revenu, on s'est posé, chacun commencé à travailler, et puis on s'est dit allons-y, let's go, quoi, ça nous fait plaisir, c'est une nouvelle étape.
Ok, cool. Comment se passe la grossesse? Peut-être avant ça, comment t'apprends que ta femme est enceinte? Ta femme t'accompagne, je sais pas.
Ouais, ma compagne, pas mariée pour l'instant. Je sens que je vais avoir le droit en réécoutant le podcast avec elle. Là, je vais y avoir le droit.
T'es coincé. Je suis désolé. C'est ma faute. Hein,
non. Alors comment on apprend ça? On essayait de tomber enceinte. Mm-hmm. Et donc ma nana qui est très, pas hypochondriaque, mais qui arrêtait pas de dire mince, j'ai un peu une nausée, ça se trouve je suis enceinte, faut absolument que je fasse un test. Donc elle faisait donc elle arrêtait pas de faire des tests. Donc là, celui qui a été positif, on était chez les beaux-parents, on a découvert ça. On va dire, enfin, on a découvert ça un peu en secret tous les deux. Alors l'idée après c'était, faut pas qu'on explose de joie non plus, parce que sinon ils vont le découvrir.
Oui, on veut toujours garder le truc secret.
Ouais, c'est ça, on veut attendre un certain temps avant de le dire.
OK. D'accord. Et donc la grossesse.
Et donc la grossesse, et c'est là que le bas blesse. Alors pendant 5 mois, ça se passe plutôt bien. Si ce n'est que des nausées, des nausées très fortes.
Même après le premier trimestre, c'est ça?
Oui, même après le premier trimestre. Ça a été vraiment pendant 5 mois, elle ne pouvait pas s'approcher de la cuisine sans avoir une nausée ou quoi que ce soit.
Ok.
Donc ça, c'était assez...
T'as fait à manger de ce truc-là?
Oui, j'ai fait à manger. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Mais...
Okay.
Donc pendant 5 mois, ouais, pour elle, je pense que ça a été très dur pour ça, quoi. Surtout au niveau des nausées. Sinon après, ça se passe très bien. Le bébé grossit bien. Il n'y a pas de souci qui est décelé. On le sent bouger. Tout va bien. Et donc c'est à peu près vers un peu après le cinquième mois qu'on reçoit un appel donc du centre d'analyse qui nous dit qu'il y a un taux de protéines dans les urines qui est très fort. Et donc on avait déjà eu le problème dans une prise de sang précédente. J'ai dit peut-être le moment où vous avez fait la prise de sang, etc. Bon, refaites-en une. On a refait une, il n'y avait plus rien. Donc là ils refont une prise de sang. Enfin un mois après, quoi. Et taux de protéines dans les urines très fort. Donc le laboratoire m'appelle. Je sais pas pourquoi ils avaient mon numéro et pas celui de ma compagne, mais bon. Et ils me disent faut aller voir le médecin ou aller à l'hôpital, quoi. C'est assez inquiétant. Donc bon, on réfléchit pas trop, on prend la voiture, on va aux urgences. Et aux urgences, ils prennent la tension et donc ils trouvent qu'elle a une tension un peu forte. Et en fait, ils nous expliquent que c'est probablement une pré-éclampsie.
Donc là, alors pré-éclampsie, tu peux resituer parce que...
Là, on a fait comme tout le monde, on allait sur Wikipédia. Pré-éclampsie, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis pas médecin, donc je pense que je vais dire des âneries, oui. Mais grosso modo, c'est... ce que j'en ai compris, c'est une mauvaise vascularisation du placenta qui fait que le corps de la femme essaie de compenser, et donc ça fait des taux de protéines dans les urines qui sont très forts, et ça fait aussi de la tension. Donc au début, ça, ça, c'est de la protéine et de la tension. Et ensuite, petit à petit, ça va atteindre les différents organes du corps de la femme jusqu'à l'accouchement.
Ok.
Donc c'est quelque chose qui peut se développer au final. Enfin, c'est assez courant au final, mais ça arrive souvent sur la fin de la grossesse. Donc si c'est à 8e mois ou 9e mois, c'est pas très grave. Soit on provoque l'accouchement, soit on attend un peu. Donc là, c'était quand même assez tôt.
Là, c'est aux alentours de 5 mois, c'est ça, donc ?
Ouais. Ouais. Donc là, c'était hospitalisation.
À tout de suite, donc.
Au début, c'était pas hospitalisation tout de suite. Au début, c'était vous revenez demain, enfin, vous allez revenir tous les jours faire des monitorings et des prises de sang. De fait, elle a pas fait beaucoup l'aller-retour. Parce qu'au deuxième jour, la tension était encore plus haute, etc. Donc on vous hospitalise. Donc on a fait deux ou trois allers-retours comme ça, deux hospitalisations, vous pouvez rentrer une ou deux journées, puis finalement on y retourne, puis on reste encore, et donc ça s'est fini. Donc la compagne a été hospitalisée pendant, au final, grosse, je dirais, un mois. Et donc avec son état qui se dégradait assez vite, enfin ça se finissait, en fait ça se finissait, donc c'était ses reins qui, les reins et le foie qui commençaient à lâcher, donc des douleurs, des... Les constantes qui s'affolent, etc. Donc c'était pas un moment super agréable.
Comment tu vis ça, toi?
C'est mal parce qu'au final tu peux rien faire, quoi. Tu regardes les choses. En fait, le remède, c'est simple, c'est de provoquer l'accouchement. Mais les médecins préfèrent attendre le plus longtemps possible parce que chaque jour, enfin, vaut mieux le faire. Chaque jour que l'enfant passe dans le ventre de la mère, c'est des chances qu'il a en plus de pas avoir de séquelles. Donc, l'idée, c'est juste d'attendre, de tenir le plus longtemps. Et donc, forcément, oui, quand tu vois ta compagne qui a mal, qui est pas bien, qui pleure parce que, elle a peur, etc., et que toi, t'es à côté, tu peux rien faire, tu te sens un peu comme un con, quoi. Donc, non, pas un super moment. En plus, quand tu rentres chez toi seul le soir et que tu te dis, mince, je l'ai laissé à l'hôpital.
Tu culpabilises un peu.
Ouais, tu culpabilises un peu, quoi. Puis du coup, tu retournes bosser. Enfin bon, la vie continue, mais c'est un truc très... Enfin, c'est une ambiance super chelou où tu dois continuer ta vie un peu toi, tout seul, mais t'as qu'une seule envie, en fait, c'est retourner à l'hôpital pour aller avec elle, quoi.
Mmh. Ça a duré, tu dis, un mois?
Ouais,
un mois,
grosso modo, un mois, et donc...
C'est long, un mois...
Oui. Ah oui, ça a été très long. Mais après, c'était avec des allers-retours, donc au final, je pense que c'était pas un mois...
Elle sortait régulièrement, c'est ça?
Ouais, elle est sortie deux ou trois fois, mais la dernière hospitalisation a bien duré deux semaines complètes à l'hôpital, à l'IT. Donc, dans des circonstances... Pas très agréables, on va dire.
Comment vous vivez ce moment-là aussi, vous, en tant que couple? C'est des moments de stress, j'imagine. C'est des moments qui ne sont pas forcément évidents, quoi.
Oui, et puis ça arrive un peu tôt. C'est-à-dire qu'on avait toujours... Enfin, truc débile, c'est le nom, quoi. On avait pas de nom pour un garçon. Et on voulait pas savoir le sexe aussi,
okay.
Je précise. Donc, on n'avait pas de nom pour un garçon. Et à 6 mois, on se disait qu'on avait encore de la marche, quoi. Donc, à un moment, ça a été au final, je sais pas, 3-4 jours avant l'accouchement, on s'est regardé en disant, mais on m'a pas oublié un truc, là? Comment? Est-ce qu'on va pas avoir une mauvaise surprise? Enfin, une mauvaise surprise, non. Est-ce qu'on va pas être bête?
Oui.
Donc, c'est juste.
Là, vous saviez toujours pas le.
Non, on savait toujours pas. Donc, au niveau du couple, c'est stressant. Alors, t'essaies de la soutenir au mieux parce que, l'idée, c'est de le garder le plus longtemps. T'essayes de faire ce que tu peux, quoi. Mais bon, t'es un peu démuni, quoi. Et après, t'as le stress, quoi. Qu'est-ce qui va se passer en sortant? Alors, t'as des médecins qui viennent quand même t'expliquer comment ça va se passer ensuite. Donc, au moment de l'accouchement, votre bébé va aller tout de suite en couveuse, etc. Donc, pour ça, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que l'hôpital, la maternité la plus proche de chez nous, c'est Pontoise. Qui est une maternité, classe 3, je crois, enfin, je saurais plus, mais qui est une maternité qui est prévue pour accueillir les prémas. Donc, on a pu rester à la maternité à côté de chez nous. Et c'est un service néonat qui est super bien pour le coup. Donc, ils ont vraiment été patients, ils ont beaucoup expliqué comment ça allait se passer, les risques, tout ça.
Ok. Donc, comment ça finit par. L'accouchement finit par être programmé, j'imagine, à un moment donné. Est-ce que c'est l'état de santé de ta femme qui finit par déclencher l'accouchement?
C'était le dernier soir, je m'en rappelle. Je suis rentré chez moi et l'infirmière me dit, en gros, là, votre femme, elle est à bout, quoi. Donc, à mon avis, ça va être pour ce soir. Donc, je rentre chez moi. C'était, je sais pas, minuit ou. Non, peut-être 2h du matin. Je reçois un coup de fil. Donc, je réfléchis pas. Je saute dans la voiture. J'arrive en salle d'accouchement. Donc elle, là, c'était là, le dernier, les derniers jours, c'était l'agonie, quoi. Elle avait, c'était énormément de douleurs. Donc là, je la retrouve en salle d'accouchement. Donc il lui avait donné des sédatifs, donc d'un coup tout va mieux. Puis c'est la libération, quoi. Tu dis ça y est, ça va être fini. Donc
t'as pas peur pour ta femme, pour ta compagne à ce moment-là que. Alors peut-être je dresse un tableau très noir, mais je me projette et je me dis j'aurais peur qu'elle soit pas assez forte et qu'elle puisse, ça arrive encore, mourir en couche, quoi, tu vois, en tout cas avoir vraiment un grave accident, quoi, en donnant la vie. C'est pas un truc qui traverse l'esprit, peut-être.
Non, au final, c'est pas trop ce que j'ai pensé. j'étais plus en me disant bon, enfin voilà, quoi, on a là la première phase, on a fait ce qu'on pouvait, maintenant on passe à une deuxième phase, okay. Entre guillemets, la libération, il y aura. Ça va être dur, mais il n'y aura plus de douleur. Et puis surtout, je sais pas, t'as tous les médecins qui sont là, qui oui. sont autour, qui s'agitent. Et au final, c'est même plutôt rassurant, quoi. T'es dans un environnement contrôlé, tu dis là, ça y est, on va. Donc il la prépare. Il m'amène gentiment vers la sortie en disant, écoutez, on vous rappelle quand c'est fait.
Ok, parce que à ce moment-là, j'imagine qu'ils font une césarienne, c'est ça ?
Oui, okay. Ils font une césarienne. Et donc là, c'est. Et donc là, c'est oui. Je pense qu'ils ont pas voulu prendre de risque. Alors aussi, comme alors il y avait, ça va être dark. Franchement, ça va être dark comme début d'épisode.
Non, mais c'est
le taux de plaquettes aussi avait chuté du fait de problèmes sur le foie, si je ne m'abuse.
Ok.
Donc de fait, il y a un risque d'hémorragie, etc. Donc dans ces cas-là, ils prennent pas de risque. Le père, c'est dehors. On n'a pas besoin d'un, ouais. On n'a pas besoin d'un obstacle. Ce que je comprends tout à fait. À vrai dire, à ce moment-là, je dis rien.
C'était programmé qu'il y avait une césarienne, c'est ça, j'imagine ?
Oui, oui, oui. Il nous avait annoncé que ça serait par césarienne. Et donc, il l'emmène dans le bloc. J'attends, moi, pendant ce temps-là, dans le couloir. À un moment, je vois un éclair passer, deux infirmières en courant, en entendant un petit cri. Écoute, c'est peut-être le mien, je sais pas. Parce que c'est un hôpital. Je me dis, c'est peut-être un autre gamin, quoi. Et donc, 10 minutes, enfin, même pas, non, j'exagère. Non, je pense une heure après, les mêmes infirmières reviennent et m'expliquent que du coup, c'est bon, il est né, qu'il est en bonne santé, qu'ils sont pas venus avant parce qu'ils l'ont installé en couveuse. En fait, donc en prémas, la priorité, c'est le gamin, évidemment.
Bien sûr.
Donc quand ils le sortent, c'est directement en couveuse, ils l'intubent, ils font tout un tas de. Enfin, ils installent un cathéter central, tout un tas de manipulations. Et donc ensuite, on prévient le papa. Et donc là, on peut me demander le prénom. Et donc là, j'ai. Ah mince, on avait dit quoi déjà ? Ah oui, Merlin, c'est bon.
Ta femme va bien ? Enfin, ta compagne va bien ?
Alors, on me dit qu'elle va très bien, qu'elle est en train de se reposer. Moi, on m'amène directement vers l'enfant. Donc du coup, comme toutes les manipulations sont terminées, je peux aller le voir en couveuse. Et là, c'est assez bizarre parce que du coup, je suis seul avec l'enfant. Alors, au début, il y a une infirmière quand même qui m'explique comment ça va se passer un peu en néonat, qui me présente les différents appareils. Ils ont des fiches de suivi donc, que les parents peuvent consulter quand ils viennent dans la chambre. Voilà. Très, très didactique, très bien. Et donc, ensuite, on me laisse seul avec mon enfant et je suis sans ma femme devant mon bébé. Donc, sentiment pareil, un peu étrange.
En fait, c'est un peu étrange parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, je pense, d'une manière générale, c'est ça ?
Non, encore une fois, c'est pareil. C'est pas moi qui est passé un mois à l'hôpital à souffrir, quoi. Et donc, tu te sens un peu coupable de pouvoir voir l'enfant, de pouvoir aller voir ton enfant tout de suite, alors que ta femme est encore en salle de réveil et après s'être fait charcuter. Enfin. Mais moment quand même super émouvant de le voir. Et c'est une petite chose, quoi. Il faisait 1,115 kg à la naissance. Ah oui. Et comme il perd toujours un peu au début, il est même tombé sous les 1 kg. Donc c'est une toute petite crevette au début. Et donc, je reste avec lui un certain temps. Après, je rentre vite fait prendre une douche et je retourne voir ma compagne avec... mes beaux-parents qui... Donc du coup, j'avais envoyé des messages quand même dans la nuit à mes parents et mes beaux-parents pour dire que ça y était, quoi. Et donc j'appelle mes parents puis mes beaux-parents en sortant de l'hôpital pour leur annoncer. Et les beaux-parents n'avaient pas eu le message. Donc ça a donné une conversation lunaire.
Ah, fou.
En l'appelant, en disant « Ouais, c'est bon, tout va bien, le petit va bien, tout ça. » Et puis c'était ma belle-mère au téléphone qui comprend rien du tout à ce que je dis.
J'imagine, ça a dû être bizarre.
Oui, c'était assez bizarre. C'est un des souvenirs que j'ai de cette journée-là où vraiment Ça a été. Donc après, je retourne voir ma femme, tout va bien, et donc elle a pu aller voir le petit dans la soirée. Parce que, grâce à deux infirmières. Alors, elle était encore appareillée, elle avait, la première fois qu'on est descendu, elle avait, je crois, une perfusion, trois pouces seringues. Enfin, elle était appareillée de partout, et donc, les infirmières débarquent, et nous, bon, vous allez voir votre petit quand même. Donc, elle ramène le siège, elle installe tout. Enfin,
ah, super.
Donc, elle est super, super sympa, super bien. Mm-hmm. Donc, elle peut le voir quelques heures après moi.
Oh, c'est cool. Comment se passent les premiers jours? Avec ce bébé qui est donc dans la couveuse, j'imagine que c'est une aventure un peu particulière. Quoi.
Au début, ouais, c'est un peu particulier. Surtout, il y a une petite routine en fait qui s'installe. À ce degré de prématurité, de toute façon, ils font quasiment que dormir. Donc il n'y a pas trop d'interactions. Les interactions, c'est les soins que font les infirmières régulièrement. Comme ma femme est encore à l'hôpital, donc on peut aller les voir, on peut aller les aider, parce qu'ils sollicitent les parents quand même.
Oui, donc vous avez quand même cette possibilité-là.
Ouais, ils impliquent les parents pour pas mal de choses.
C'est cool parce que je me disais qu'en fait, à ce niveau de prématurité, justement, t'avais peut-être pas la possibilité, toi, en tant que jeune parent, de pouvoir accéder à ton enfant directement. Donc je savais pas ça, tu vois.
Si, alors c'est une des premières choses qui t'explique, c'est. Bon, alors, rentrer dans le service de néonat, c'est faut se laver les mains, faut mettre une blouse, il y a un minimum. Mais une fois qu'on est dedans, ils vous expliquent, c'est votre enfant, quoi. Vous allez vous en occuper, donc vous pouvez ouvrir la couveuse, regarder.
Ok.
Vous allez devoir le changer, tout ça. Donc ils impliquent vachement les parents. Et je pense que c'est une des spécificités. Alors, à mon avis, toutes les néonates ne le font pas. Mais à Pontoise, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord. Si vous êtes dans les commentaires, parce que peut-être qu'il y a des gens qui raconteront qu'ils ont peut-être eu des expériences différentes, mais d'accord, ok.
Et donc ensuite, ouais, première difficulté, ça a été la sortie de l'hôpital pour ma compagne. Parce que là, elle était à deux étages du petit, donc rentrer à la maison alors qu'il est là-bas, c'est un premier choc.
Il est resté combien de temps en néonat comme ça?
Alors, il est resté 3 mois au total en néonat. Grosso modo, on va dire en doigt mouillé, ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'il va rester en néonat jusqu'au terme quasiment. Donc, il a été 3 mois en néonat, dont quasiment, peut-être un mois au Kremlin-Bicêtre. Donc, il a dû être déplacé et opéré.
Il avait une petite complication, c'est ça?
Ouais, en fait, après un mois de vie, donc. Il a fait ce qu'on appelle une entérocolite. Donc c'est... Encore une fois, je vais pas trop... Enfin, je vais sûrement dire des conneries, mais... C'est un problème un problème sanguin au niveau du côlon.
Okay.
Et donc, c'est une infection, quoi. Donc au bout d'un mois, il a une infection. Donc on lui avait retiré l'intubation, on lui avait mis un masque. Donc on retourne en arrière, on le réintube, on lui met des médocs, des sédatifs. Donc ça dure 2 jours. Petite infection. Donc ça se règle, ça va. Et plus tard, il en refait une deuxième, donc plus sérieuse. Et donc là, pour pas prendre de risque, ce qu'on fait, ce que choisissent les médecins de Pontoise, c'est de le transférer au Kremlin-Bicêtre. Parce qu'à Pontoise, ils ont beau avoir un service de néonat, ils ont pas forcément les chirurgiens. Enfin, ils peuvent pas forcément réaliser d'actes de chirurgie sur les néonates. Donc pour ça, c'est un des 3 hôpitaux de Paris. Enfin. Il y a 3 hôpitaux à Paris, c'est Robert Debré, le Kremlin-Bicêtre et j'oublie le troisième, qui est le plus évident en plus. Bon, peu importe.
Je l'ai pas, je t'avoue.
Non, c'est le l'hôpital pour les enfants, celui qui est spécialisé.
C'est la Pietrée, non? C'est pas.
Non, c'est pas lui. Bon, ça me reviendra peut-être. C'est pas très important.
C'est Salpêtrière. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas okay. Celui-là. Et donc ils l'ont transféré. Alors manque de peau, c'était le Kremlin-Bicêtre, c'est le premier qui répond. Enfin, ils envoient. En gros, ils demandent 2-3 hôpitaux. Le premier qui répond, ils envoient l'enfant parce qu'il perd pas de temps.
Mm-hmm.
En manque de peau, c'était le seul qui était à l'autre bout de Paris pour nous. Donc, on est plutôt nord-ouest. Ça a été une. Donc ça aussi, c'est encore une aventure parce que du coup, ton enfant part en ambulance.
Oui, j'imagine que ça doit être quelque chose.
Ouais, c'est ça. Donc on part en voiture. Nous, on arrive au Kremlin-Bicêtre. Là, c'est un nouvel hôpital. On connaît plus rien. Cherche désespérément les néonates. Et quand on arrive, donc, ce que je disais, Pontoise, c'est pas. Enfin, toutes les néonates sont pas organisées pareil, c'est que de fait, le Kremlin-Bicêtre, c'était pas la même ambiance que Pontoise. C'est plus médical.
Que familial, tu veux dire.
Ouais, c'est ça. À Pontoise, c'est ta chambre que tu peux. Enfin, pas customiser, mais ils font en sorte que tu te sentes chez toi. Ils te mettent un tableau où tu peux communiquer avec l'équipe. tu peux consulter les feuilles de soins. Kremlin Bicêtre, ça fait plus hôpital. Donc c'est un peu plus formel. Enfin, je dis ça. J'ai l'impression de je veux pas dénigrer le Kremlin Bicêtre quoi, parce que c'est non, quand même un super hôpital, mais c'est pas la même.
Enfin, je comprends ce que tu veux dire en termes d'accueil. Après, c'est pas forcément ça que tu viens chercher toi en tant que parent. Tu veux juste que ton enfant aille bien quoi, j'imagine. Mais c'est vrai que l'aspect peut-être accueil est un plus un peu positif quoi. Tu
ouais,
vois,
c'est ça.
Un truc un peu positif.
Et donc là, en gros, quand on arrive, on rencontre directement la chirurgienne. Qui nous explique que bon potentiel, enfin en gros le risque c'est qu'on doive opérer. Donc qui nous explique comment ils vont opérer. Alors là c'est vu l'état psychologique qu'on avait ce jour-là, on sort de là catastrophé parce qu'elle nous explique que bah, potentiellement on va devoir l'ouvrir, lui retirer un bout d'intestin. Si c'est en gros, il peut ressortir de là avec une poche gastrique. Enfin. Elle nous explique que peut-être il va la garder jusqu'à ce qu'il rentre chez nous, donc on aura chez nous un enfant. Enfin, elle nous donne tous les détails un peu en vrac, et là on ressort de là un peu lessivé, désespéré quoi.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment vous vivez ça?
Ah ben, en fait, bah, on savait que Préma, forcément, il allait avoir des risques. Tu vois. Mais là, c'est la première fois où vraiment on est face à la complication sérieuse où bah, là, tu te dis vraiment, si ça se trouve, il va y rester. Quoi. Donc en plus, t'es à l'autre bout de Paris, il est tard, tu sens que là, la galère va arriver.
Comment ça se passe avec ta femme à ce moment-là? Comment, dans quel état elle est, elle?
Ah bah elle est... Ouais, voilà, tous les deux, je pense qu'on est dévastés. Mm-hmm. Après, en plus, enfin... Vu qu'elle était en arrêt et que moi, je continue à travailler, c'est elle qui, tous les jours, allait le voir. Moi, j'essayais d'aller le voir à Pontoise. À chaque pause repas, je prenais la voiture pour aller le voir. Le soir, je filais direct à l'hosto après le boulot pour aller le voir. Donc, je le voyais quand même pas mal. C'est elle qui passait tout l'après-midi avec lui. Et en fait, tout le moment où on était à Pontoise, les après-midi, c'était du pot à pot. Donc, même en néonate, même s'il est en couveuse, les médecins se débrouillaient pour qu'on fasse du pot à pot. Donc, c'était des heures et des heures de pot à pot où vraiment là, tu profites, quoi. Mmh.
C'était moins le cas au Kremlin, c'est ça?
Bah, c'est surtout que c'était elle, du coup, qui passait la journée en poids à peau. Okay. Donc, elle avait une relation quand même plus fusionnelle avec lui que moi, je pense.
Ok. Et toi, de ton côté, tu te sentais un peu, peut-être, délaissé, façon...
Bah, pas forcément délaissé, mais je suis moi là, quoi. Je peux pas autant partager avec lui qu'elle le peut. Donc, peut-être que, ouais, je pense qu'elle a peut-être été plus atteinte que moi. Par le Kremlin Bicêtre.
T'aurais aimé, toi tu sais, il y a tout ce débat autour du congé paternité en ce moment, etc. Avec le recul, c'est un truc que t'aurais aimé pouvoir faire.
Ouais. D'ailleurs, c'est. Il n'y a pas longtemps, justement, pour les prématurés. Alors, pour les prématurés, du coup, le congé maternité de la mère est étendu.
Ok.
Donc, ça, en gros, jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. Enfin, du moment où il naît jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital, c'est en bonus. Et après, il y a le congé maternité à proprement parler. Et donc récemment, ils ont changé la loi pour les hommes pour faire la même chose.
Ok.
Donc si ça arrivait maintenant, j'aurais en effet un congé plus important. Ouais, je pense que c'est un truc qui m'a manqué parce que c'est, enfin, pour nous encore, c'était une situation relativement facile puisqu'on n'avait pas d'autres enfants. Bon, on avait un chien, mais c'est quand même pas la même chose. Le chien, tu le sors une fois le matin, une fois le soir, ça va. Mais il y avait d'autres parents qui étaient en néonat avec nous et qui en discutaient et qui, eux, bah, avaient peut-être 2 ou 3 enfants, des boulots qui permettent pas forcément...
C'est une autre organisation. Encore.
Exactement, ouais. Ça peut vite devenir... Enfin, ça doit être encore plus horrible, quoi, de pas pouvoir être là tout le temps pour ton enfant ou de délaisser les autres. Enfin,
oui, tu dois
faire des choix, quoi.
Comment se passe cette opération alors ?
Alors, déjà, ils attendent qu'il se stabilise, donc il va aller mieux au final au bout de quelques jours. Donc là, un gros ouf. Mais bon,
il se fait pas opérer. Alors.
Si, du coup. Okay. Alors, du coup, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont quand même l'opéré. Parce qu'ils ont vu à la radio ou au scanner, je sais plus, des sténoses. Un nouveau terme médical.
Ok.
En fait, c'est des rétrécissements de l'intestin.
Ok.
Et donc, ça peut potentiellement bloquer la digestion. Donc, il nous réexplique l'opération, comment ça va se passer. Donc, ils vont l'ouvrir, ils vont tout dérouler, puis ils vont regarder s'il y a des rétrécissements et puis ils vont enlever des bouts. Donc, là, l'opération, c'est pas en urgence, entre guillemets. Ils la prévoient en avance. Ils attendent qu'il soit à fond, qu'il soit bien remis pour qu'il puisse la supporter sans problème. Et ça se passe super bien. Donc, il repart de là avec 10 cm de côlon en moins.
Mais un intestin qui marche très bien.
Et un intestin au poil. aucune séquelle jusqu'à aujourd'hui. Donc, nickel. Et donc, il passe quelques jours encore au Kremlin-Bicêtre, histoire de se remettre de son opération. Puis ensuite, retour à Pontoise. Donc là, plus en soins intensifs, mais en néonat. Je n'ai plus les différences, mais bon, grosso modo, c'est une chambre moins médicalisée.
Ok.
Et pas tous les appareils, il y a juste un moniteur.
Il a combien de mois, là, donc ?
Là, il est revenu, il devait avoir 2 mois et demi de vie, peut-être.
Ok.
Donc là, il commence à téter enfin, parce que jusque-là, c'était soit via le cathéter central, soit via une sonde gastrique. Donc là, on commence à le faire téter. C'est un peu la condition pour qu'il sorte, quoi, qu'il arrive à téter tout seul. Mm-hmm. Et un week-end, entre-temps, il a aussi une hernie inguinale. Donc c'est une petite hernie au niveau du pubis. Et donc c'est en gros, là, il arrive à téter et tout, il pourrait sortir. Il y a juste l'hernie qu'il faudrait opérer. Donc c'est un petit point à faire. Le vendredi, ils n'arrivent pas à voir le chirurgien, donc ils nous font bon, bah, en gros, vous allez rester ici jusqu'à ce qu'on ait vu le chirurgien, c'est bête, donc bah, vous avez la permission du week-end, vous le prenez, vous rentrez.
Ah, ok.
Donc, premier tour à la maison. La veille, il nous annonce ça le vendredi en disant bah, demain matin, vous pouvez repartir avec lui. Donc, on court à la maison, monter tous les meubles en catastrophe.
Oui, c'est vrai que de ce fait-là, vous n'aviez pas vraiment anticipé le retour, quoi.
Non, tu t'anticipes, mais en même temps, t'as 1000 trucs à penser, quoi. Donc les meubles, honnêtement, bon, tu y penses un peu à la fin, et puis tu rentres tard, parce que t'es avec lui, parce que machin. Donc là, ça nous a fait une soirée de couple, montage de meubles. et puis le lendemain, on est enfin rentré avec lui.
Comment ça se passe ? Ça doit être quelque chose, hein ?
Ouais, c'est particulier. Bah, au début, t'as peur, tout simplement. Parce que t'as pas tous les appareils, tous les bips, tout ça, et donc tu dis bah là je suis sans filet, donc faut que je gère. Donc le premier week-end se passe bien. Bah après ça faisait déjà aussi quelques temps que du coup donc, depuis qu'on est revenu à Pontoise, ma compagne dort à l'hôpital.
Ok.
Pour s'occuper de lui vraiment toute la nuit, donc donner des biberons, tout ça. Là, je suis un mauvais père parce que je l'ai fait qu'une fois.
C'est pas grave. Pourquoi tu viens d'excuser ?
Bah parce que je me sens toujours coupable de l'avoir fait qu'une fois et d'avoir laissé en gros ma nana se taper toutes les nuits pourries à un néonat. Mais en même temps, comme je dis, la condition pour sortir, c'est qu'il tète. Et du coup, la nuit, c'est le mot. Enfin, faut qu'il tète la nuit aussi. Et c'est à ce moment-là, c'est pas gagné. Ils finissent souvent en sonde gastrique. Et du coup, ma nana même me dit, mais de toute façon, je t'aurais pas laissé y aller parce que s'il avait pas tété cette nuit-là, je t'en aurais juste voulu à mort d'avoir retardé le départ. Ouais. Mais bon, quand même.
C'est là que c'est toujours compliqué de trouver sa place de père aussi. C'est que il y a un moment donné, il y a un besoin vital de la part de l'enfant. Et toi, t'es là, bah, c'est quoi quelle est ma vie ?
Oui, bah oui.
Et puis j'imagine que t'allais au boulot.
Oui, j'allais au boulot.
Donc on revient à cette histoire de congé paternité aussi qui fait que c'est compliqué, quoi.
Oui, oui, mais bon, après, bon.
T'as cette sensation, toi, que sur ces 2-3 premiers mois, là, ça a été... Enfin, en tout cas, de ce que tu me racontes, là, moi, j'ai un peu la sensation que ça a été dur pour toi de trouver ta place, justement, dans ce nouveau trio, quoi. Alors, ce qui est un vrai truc assez récurrent, hein, de la part de plein de darons qui racontent... mais l'aspect médical, en plus, semble que... Enfin, en tout cas, de ce que tu me racontes, je sens que ça a été un peu plus compliqué pour toi encore, quoi.
Oui, 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 ça a été compliqué, c'est sûr. Et puis après, il y a le... Enfin, je sais pas, c'est tout. Enfin, plus tu restes à l'hôpital, entre guillemets, plus tu vas connaître les infirmières, leur routine, etc. Et du coup, bah, des fois, je sais pas, tu. Pour le mettre en poids pot, par exemple, faut que tu demandes à une infirmière. Parce que, bah, mine de rien, il y a quand même pas mal de filas autour, quoi. Et faut pas tirer sur un fil, quoi.
Oui, faudrait.
Faut débrancher. Et donc.
Donc, c'est un peu un cercle vicieux, c'est ça que tu dis aussi, c'est que.
Bah, non, mais c'est. Bah, par exemple, il y a un moment où les infirmières ont fini. Enfin, plus ça allait mieux et moins il avait de fil, etc. Bon, les infirmières disent, bon, écoutez, vous le mettez, vous le reprenez vous-même, quoi. Et ça, ces premières manipulations-là, c'est pas moi qui peux les faire, c'est ma compagne, parce que c'est elle qu'on a bien expliqué, que même moi, je me sens pas forcément de le manipuler. Donc, tu vois, c'est tout ce truc où, tu rates un peu, c'est des moments qui sont pas non plus les meilleurs souvenirs de ta vie, mais tu rates quand même des trucs avec l'enfant, quoi. Des premières fois, la première fois que tu peux lui mettre un body, la première fois que. Donc ouais, c'est un peu difficile de trouver sa place en tant que père. Après, je pense que j'étais quand même pas le... Enfin, je ne vais pas dire pas le pire, mais...
Il y a toujours pire.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, j'avais quand même la volonté, donc je me sens pas non plus... je me sens pas coupable, mais... Ouais, c'est un peu compliqué de... d'arriver là, en gros, la tête enfarinée après ta journée de boulot et d'essayer de rattraper tout ce qui s'est passé, quoi.
Ok. Et entre vous, comment ça se passe parce que avec ta compagne, parce que j'imagine que ces 2 mois et demi, 3 mois là ont dû être éprouvants aussi nerveusement pour vous, quoi. Vous arrivez à tenir bon.
Mis à part le passage, enfin l'opération et tout le passage au crème d'un bicêtre, au final on est assez zen.
Okay.
Parce que tu le vois faire des progrès toujours. Alors, je sais que ma famille, par exemple, ma mère était impressionnée en disant mais vous avez un calme, je sais pas comment vous faites, mais en même temps quand t'es dedans, tu vois que il va de mieux en mieux, qu'il fait de plus en plus de trucs. Alors ils ont enfin baissé l'oxygène dans le masque à tant de pourcents, c'est super, c'est qu'il respire mieux. Et puis du point de vue extérieur, tu vois, c'est des petits trucs où tu vas peut-être, enfin. Ça a pas l'air bien comme ça, quoi. Il a toujours un masque. Il est pas sorti de l'auberge.
Mais
toi,
en fait,
toi, tu vois ses progrès au jour le jour. Et au final, t'es même fier, quoi. Tu t'es fier de lui, quoi. Tu dis, ah, c'est bien, là. Il a réussi à respirer sans son masque. Il a réussi à tendre les mains ou je sais pas. Enfin, les moindres trucs qu'il fait, au final, tu vois que c'est un progrès et t'en es fier, quoi.
Je me posais aussi une question par rapport notamment à tout ce début de vie très médicalisé. Tu disais que quand il est rentré à la maison, il n'y avait plus les tuyaux, il n'y avait plus les monitorings, etc. Comment vous vivez, vous, ce début de vie, effectivement, en dehors de l'hôpital avec lui? Vous avez peur pour lui?
Oui, t'as peur forcément. Ouais. Puis, après, on nous prépare aussi. Hein, l'hôpital, il nous explique... Je sais qu'il y a des parents qui, quand ils rentrent chez eux avec leur enfant, achètent un moniteur médical pour pouvoir continuer, en gros, à le surveiller. Parce que pendant tout le temps où il est en néonat, je sais pas, il y a des trucs, il y a des moments où il va désaturer, où il fait des dessins de temps en temps, c'est normal, quoi. C'est parce qu'il est tout petit, qu'il est pas encore, son corps est pas encore non plus tout à fait formé. Donc il y a plein de trucs comme ça où d'un coup ça se met à biper de partout et tu te dis, en fait, si jamais j'avais pas eu le moniteur, je l'aurais jamais vu. Mais au final, oui, une fois qu'il est rentré chez nous, c'est possible qu'il ait fait des trucs comme ça. Mais au final, c'est la vie, quoi. Il va désaturer un peu, il va repartir et puis il se réveille bien. Mais on nous avait prévenu en disant, avant de sortir, quand même, attendez-vous à plus avoir le moniteur. Donc, la semaine, par exemple, avant qu'on rentre, il nous le coupait dans la chambre pour pas qu'on se déshabitue au fur et à mesure.
C'est intéressant.
Et tu rentres, t'as un peu peur, surtout que nous, il dormait vachement sur le ventre à l'hôpital, parce que de fait, comme il est il est pas non plus, c'est pas un truc super confortable pour lui, donc ils ont trouvé qu'il dormait bien sur le ventre, donc tant pis, il dort sur le ventre, c'est pas conseillé, mais en même temps, il a des moniteurs. Enfin, il est harnaché de partout, tu vois s'il y a un problème. Et quand tu rentres chez toi, bah, t'as un gamin qui accepte plus que dormir que sur le ventre, et toi, t'as déjà.
Il y a plus le moniteur.
Il y a plus le moniteur, et toi, t'as déjà peur pour tout le reste. Donc ouais, bah, tu te bats un peu, quoi,
tu te bats contre tes propres peurs, c'est ça, à ce moment-là?
Ouais, c'est ça, bah, tu te rationalises, et puis, au final, ça finit par disparaître, mais tu. Ouais, faut garder en tête que, bah, s'il me laisse sortir, c'est que ça va, quoi. C'est qu'il, c'est un bébé normal, maintenant.
Il a 1 an et demi aujourd'hui?
Ouais.
Il va bien?
Il va nickel.
Enfin, à part le rhume, donc. à tous.
À part le rhume qu'il a gentiment distribué, il va super bien. Il a aucune séquelle. Il gambade partout. Il est plein de vie, plein d'amour.
En fait, à quel point pour vous ce début de vie à l'hôpital, etc., est déterminant pour votre façon d'interagir avec lui aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, tu disais, ouais, que t'avais peur, vous aviez peur dans les premières semaines, sans doute, et ça je peux comprendre. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre rapport à sa santé?
Bah, au final, alors déjà, dans son rapport à la santé, en proprement parler, il est vachement suivi, parce que, grand prément, en fait, il y a tout un mécanisme qui va se mettre autour, où okay, il va avoir des rendez-vous réguliers, on te demande de consulter, enfin, on te donne des rendez-vous, en fait, pour consulter plein de spécialistes dans tous les sens, pour vérifier que tout va bien. Et au final, ça participe aussi de te rassurer, quoi, parce que tu vas voir, je sais pas, tu vas avoir des ophtalmos, des médecins, tout ce que tu veux, qui te disent que tout va bien, donc à un moment,
Ok, je savais pas ça, tu vois. Typiquement, je savais pas qu'il y avait un parcours qui mettait en place un parcours spécial pour les enfants préma.
Oui, c'est ça. Bah, après,
ce qui est très entendable en plus. Hein.
Oui. Non, mais après, par exemple, un truc entre guillemets stupide, c'est qu'on te dit, comme il a eu de l'oxygène, ça peut provoquer des problèmes de vue. Donc, on te demande d'aller consulter un ophtalmo.
Ok.
Donc, tu vas consulter un ophtalmo, et là, l'ophtalmo dit, il n'y a pas de problème de vue dû à sa prématurité. Par contre, il est un peu astigmate, donc on va lui mettre des lunettes. Et donc là, c'est un truc où tu vas parce qu'il est préma, et puis en fait, tu ressors avec un truc qui n'a rien à voir. Et tu dis, mais c'est marrant, quoi. Pourquoi on ne dit pas à tous les gamins d'aller consulter un ophtalmo? Parce que, en gros, tant qu'ils sont petits, ce qu'on t'explique, c'est que tant qu'il est petit, bah, son œil, il va encore évoluer, quoi. Donc si on lui met des lunettes maintenant, ça peut corriger le truc,
plus tard, quoi.
Et il y a plein de trucs où tu. En fait, donc ouais, on te donne plein de rendez-vous, on te force à consulter, mais au final. T'as pas l'impression, c'est des trucs qu'on devrait faire pour tous les gamins presque.
Ouais, je comprends.
Et donc ensuite, l'historique, t'essaies de mettre derrière lui. T'essaies, au bout d'un moment, tu t'y penses plus en fait. Après, c'est peut-être aussi parce que nous, c'est le premier, c'est le seul qu'on a, donc on n'a pas non plus. On n'a pas d'autres références. Donc je sais pas si on en avait eu un autre ou si on en a un autre, est-ce qu'on réagira différemment, mais. Ouais, je sais pas, tu t'y penses pas plus que ça. En plus, il est quand même. Bon, maintenant, ça va, quoi. Il pète la forme.
Ça a l'air.
Ouais, il envoie. Donc, tu te dis plus, c'est le petit truc fragile qui faisait moins d'un kilo que j'ai vu la première fois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est un enfant qui vient quand même de. Comme tu dis, qui pesait à peine un kilo, moins d'un kilo, quoi. C'est fini.
Ouais. Bon, le poids, il est quand même pas gros, mais. Mais je pense que c'est plus sa morphologie, quoi, parce que. Qu'est-ce qu'il bouffe?
T'es un grand gaillard, toi, normalement, il devrait devenir grand gaillard aussi, je
manque. Je sais pas, il a pris des gènes. Je sais pas où il les a pris, ceux-là, mais c'est pas chez moi.
Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, en fait, par rapport à. Notamment par rapport à cette aventure autour de la prématurité. Est-ce qu'il y a des choses que. Je me mets à la place des éventuels futurs parents, tu vois, qui se retrouveraient un peu dans la même situation que vous. Est-ce que tu as des conseils à leur donner?
Ouais, alors il y a un aspect où je me suis dit qu'il fallait que j'en parle.
Ouais.
C'est le rapport à la famille. Parce que du coup, le premier jour, donc j'annonce à tout le monde, j'annonce à mes parents et mes beaux-parents, vous avez un petit-fils, quoi. Et alors au début, évidemment, c'est pas la question, mais au bout d'un moment, bah, est-ce qu'ils peuvent aller le voir, quoi. Et donc oui, ils peuvent aller le voir. Donc on est, enfin, à Pontoise, en tout cas, c'était autorisé. Donc, mais c'est, enfin, c'est un rapport bizarre, quoi, parce qu'entre guillemets, bon, bah, les grands-parents, ils auraient envie de le voir tout le temps, le petit-fils, mais toi, en même temps, c'est un truc médicalisé, t'as pas non plus forcément envie qu'il y ait toute la farandole dans la pièce, donc.
Comment t'as fait?
On a expliqué, tout simplement, on a dit, vous pouvez venir le voir, mais enfin. Alors après, mais globalement, nos parents ont été. Nos parents ont quand même bien réagi en s'imposant pas à nous. Donc ils attendaient quand même, ils nous demandaient vraiment est-ce que ça vous dérange pas si ou
okay.
Voire ils attendaient qu'on les invite tout simplement. Mais non, mais oui, ça c'est un rapport particulier quoi où faut mettre un peu, enfin faut pas non plus culpabiliser entre guillemets de le garder pour toi, je pense, parce que c'est une situation compliquée et les gens comprennent globalement.
Je pense que c'est un vrai sujet, les parents, d'une manière générale, après les accouchements comme ça. Mais à mon avis, avec l'aspect médical, ça doit rajouter un facteur de plus, quoi.
Ouais, puis pour eux, c'est frustrant. Donc après, nous, on gérait ça aussi. On prenait énormément de photos. Et donc, on partageait ça sur un album qu'on leur envoyait. Comme ça, ils pouvaient voir quand même un peu au jour le jour comment il allait. On leur donnait des nouvelles constamment. Puis après, ils venaient le voir. Ils sont venus le voir quand même quelques fois. Ils ont pu le prendre dans les bras. Mais puis c'est pareil. Une fois que t'es rentré à la maison, du coup, c'est il est sorti. Donc ça y est, c'est open bar, quoi. Donc non, c'est pareil. C'est la première semaine, t'es sur les rotules, parce que du coup, t'as un gamin qui a la morphologie d'un nouveau-né, mais qui est éveillé depuis 3 mois. Donc c'est particulier quoi. C'est un gamin. Enfin, quand on l'a récupéré à la maison, c'est un gamin qui faisait pas que dormir entre guillemets quoi. Ouais. Des grandes phases de réveil, très curieux, tout le temps à vouloir être stimulé. Et du coup, ça a été les premières semaines, t'en peux plus quoi. Et c'est pareil. Donc là, faut gérer entre guillemets. On dit, non, c'est peut-être pas venir nous voir ce week-end. Là, on a une occasion de dormir, c'est roupillé, donc.
J'ai la sensation aussi qu'avec ta compagne, vous avez réussi à rester sur un mode très positif, même pendant les moments les plus compliqués. En tout cas, d'après ce que tu racontes, c'est important. C'était important aussi ça, de garder cet état d'esprit entre vous. Vous avez communiqué beaucoup, vous avez partagé vos peurs, vos machins.
Alors. Moi, je sais que je suis assez catastrophique là-dessus. Je fais jamais d'introspection. Moi, je me laisse complètement porter. Elle est pas
très masculin.
Mais je suis pas un exemple là-dessus, je pense. Mais elle est vachement dans l'introspection. Et du coup, on a quand même beaucoup parlé parce que elle se posait des questions. Ça me dérangeait pas de discuter, mais je suis horrible de dire ça.
Non mais
voilà, on en a discuté quand même, celle qui en a été l'instigatrice, mais pour moi en tout cas, moi ça me paraissait important surtout de la rassurer et genre qu'on se motive l'un l'autre, tu vois, qu'on tombe pas non plus dans que d'un coup on tombe pas dans, je sais pas, une espèce de mélancolie commune où l'un et l'autre commence à déprimer et tu t'entraînes dans le truc quoi. Donc l'idée c'était quand même de rester, tu relativises tout le temps, tu la rassures tout le temps, puis elle aussi elle te rassure quand comment est-ce qu'on va faire quand il va rentrer, on va galérer, mais non t'inquiète, on va y arriver. Donc c'était ça un peu l'idée, c'était de soutenir l'un l'autre. Puis après comme je te disais, on a tendance à être assez zen et assez détendu, donc
ça a l'air en tout cas.
Ça nous a pas mal aidé, je pense.
Est-ce que vous avez prévu de faire éventuellement un deuxième petit? Est-ce que c'est un projet?
C'est une question qui se pose. Alors oui,
c'est
prévu.
C'est une question que je peux couper si tu veux.
Non, au contraire. Parce que oui, en fait, on voulait, quand on se projetait jadis, on se disait toujours,
on était jeunes, on se projetait.
Un, c'est pas assez, deux, c'est bien, mais trois, c'est mieux. Puis là, tu relativises du coup, parce que tu dis si jamais ça recommence, si pour le deuxième, c'est la même chose. Là, tu te dis, on a échappé entre guillemets la première fois, on a pu bien profiter de lui, aller le voir, mais là, la deuxième fois, si le deuxième est préma, là, c'est la catastrophe, quoi. Donc oui, on en fera un deuxième, mais je pense que, enfin, si ça se passe mal, ça sera le dernier, quoi.
Il y a un peu plus d'appréhension en tout cas.
Ouais, il y a plus d'appréhension. Et puis après, c'est pareil. Alors, quand t'as pas d'enfant, tu dis bah 1, 2, 3, super. Puis après, t'as le premier. Puis tu découvres ce que c'est les bips de 4h du matin. Et puis tu... oh, c'est bien là. Pour l'instant, je me sens pas, quoi.
Je te jurerais pas. Tu sais. Ok, j'ai une dernière question que je pose à presque tous les invités d'Histoire de Daron. Si demain, Merlin écoute, alors pas demain, dans 10 ans, Merlin écoute ce podcast et peut-être découvre un récit que tu auras peut-être jamais raconté, quoi, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ?
Ouais, je me suis préparé, mais j'ai pas trouvé de réponse. Non, je sais pas, bah, dans 10 ans, il aura 11 ans et demi, donc. Ça sera un grand, mais ouais. Je sais pas, j'ai juste envie de lui dire, je sais pas, profite. Je sais pas, t'as tes deux parents qui t'aiment, donc va jouer, va découvre le monde, découvre la vie, et puis si on est trop casanier, bah, n'hésite pas à nous réveiller un coup.
Un beau coup de pied aux parents, c'est ça. Fait du bien.
Si je veux pas t'emmener au parc, t'as le droit de me mettre le podcast sous le nez. Et je t'emmènerai.
Alors c'est pas impossible qu'en 11 ans et demi, il se barre tout seul au parc. Hein, mais bon, c'est... Comme moi, mes filles, hop, elles se barrent toutes seules. Hein, je ne les vois plus. À bientôt. Salut. Salut. Tu verras. C'est bientôt. Ça passe très vite. En tout cas, merci beaucoup, Clément, d'être venu.
Bah, merci à toi.
Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite à tous les trois une très, très belle vie. Quoi. C'est cool.
Merci beaucoup.
Bon, merci.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.